La parole au travail, une série documentaire de Christophe Massot.
Bonjour à tous et à toutes pour une nouvelle émission de La parole au travail sur Radio Grenouille. Une émission réalisée en collaboration avec le mensuel Le Ravi, le mensuel qui ne baisse pas les bras. Les ordonnances modifiant le Code du travail ont dissous les CHSCT, Comités, Hygiène, Sécurité et Conditions de travail, en créant le CES, Conseil économique et social. La commission santé des CES, quand elle existera, n'aura ni les mêmes moyens ni la même fonction que le CHSCT. Pourquoi vouloir faire disparaître le CHSCT ? Ce dernier était un enjeu parce qu'au cœur d'une contradiction essentielle dans le corps du salarié, au travail et le foyer. Par le contrat de travail, il est établi un rapport de subordination. Le travail, ce qui doit être fait, est l'objet d'une prescription, monopole de l'employeur. Mais il n'y a pas de travail sans corps. Il n'y a que des travailleurs produisant du travail. Donc, le corps au travail est soumis au rapport de subordination dans l'entreprise par le contrat de travail. Mais ce corps est aussi celui du citoyen. Or, le corps du citoyen ne peut être soumis. Il est sujet plein et entier. La contradiction est ici. Le même corps au travail, parce qu'il ne peut y avoir deux corps, peut à la fois être soumis et ne peut pas être soumis. Le CHSCT avait cette fonction dans l'entreprise. Il venait dire quand le travail portait atteinte à l'intégrité du corps du citoyen au travail. Au nom de la santé et de l'interdiction de porter atteinte au corps du citoyen, il venait dire ce qui ne pouvait être fait. C'était là, au cœur des entreprises, au plus près du travail, un contre-pouvoir au monopole de l'employeur sur l'organisation et la prescription du travail. Le rôle du CHSCT était compliqué à tenir, mais la raison de son fonctionnement était là. Il a disparu. Aujourd'hui, nous allons entendre un agent de la PJJ, Protection judiciaire de la jeunesse. Nous entendrons comment cet agent, dans l'urgence, dans les geôles du palais de justice, cherche à tenir des liens avec l'enfant, le gamin, caché derrière le masque de la délinquance, pour ouvrir la possibilité d'un autre avenir. Bonne écoute sur Radio Grenouille.
Vincent Massary, moi je suis éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse, aussi avec un mandat syndical au sein de la FSU. Mon boulot, la première des choses pour moi, c'est la prise en charge des mineurs en grande difficulté. Je tiens à ce terme-là parce que souvent on réduit les mineurs en grande difficulté comme des mineurs délinquants. Moi je tiens pas à mettre une étiquette à des gamins, hein, parce que je pense que l'adolescence est bien plus important que la délinquance. On peut faire sa crise d'ado, et par contre, on ne peut pas faire sa crise de délinquance, ça n'existe pas. À ce titre-là, j'essaye toujours, dans mon quotidien, quand je rencontre un gamin, j'expliquerai par quel biais le gamin m'apparaît, j'essaye toujours de voir à quoi correspond ce qu'on appelle le passage à l'acte. C'est-à-dire que oui, à la protection judiciaire de la jeunesse, quand on rencontre un gamin dans n'importe quel cadre, c'est parce qu'il a commis un acte délinquant. Ce sont des mineurs qui sont sous main de justice, c'est-à-dire il y a une procédure judiciaire qui doit être éducative, la répression doit être exceptionnelle. C'est dans les principes de la prise en charge des gamins depuis après-guerre, hein, c'est l'ordonnance de février 1945, qui a posé ce cadre-là, hein, sortie de la guerre, où on a quand même eu l'État, et puis à travers le Conseil national de résistance, une prise de conscience qu'il fallait prendre en charge les gamins les plus en difficulté, avec une intervention de la justice. Il y a plusieurs cadres. La tentative aux poursuites, le gamin, il a été interpellé au commissariat, il reçoit une convocation, il rentre chez lui, et cette convocation peut être plusieurs jours après ou plusieurs semaines après. Il y a un deuxième cas, c'est là, il a fait un passage à l'acte, il est interpellé. Là, le procureur décide que, vu l'acte qui a été posé, il y aura une poursuite. Donc le gamin vient à l'unité, on met les choses à plat, et le rapport qu'on peut faire, parce qu'on fait un rapport, qui s'appelle un recueil de renseignements sociaux éducatifs. On le remet au juge qui va procéder à la mise en examen. C'est-à-dire que le gamin sera ensuite convoqué par le juge, mis en examen et jugé après quelques mois plus tard, pour laisser un temps. Dans ce cadre-là, que ce soit alternative ou poursuite ou les rendez-vous pour la préparation de la mise en examen, on est sur, en termes de passage à l'acte, on est sur des vols simples, des fois des consommations de cannabis à la sortie du lycée ou dans un lycée, une bagarre dans un lycée, un problème dans un bus, enfin des choses comme ça, ça reste assez ces premiers niveaux. On est sur les premiers niveaux. Ensuite, il y a des gamins qui là apparaissent dans l'urgence, c'est ce qui m'occupe le plus au quotidien. C'est un gamin qui a fait un passage à l'acte conséquent, qui est interpellé, qui fait une garde à vue au commissariat de 24 heures ou 48 heures, hein, qui arrive au palais de justice, mais qui est dans les geôles du palais de justice, parce qu'il y a des geôles au palais de justice, il faut le savoir, et qui va être mis en examen dans la journée. Donc là, on est vraiment dans l'urgence, c'est-à-dire que la famille arrive, le gamin est dans les geôles, on rencontre le gamin dans un bureau aménagé qui est entre les geôles et notre bureau, on rencontre les parents, et là, il faut qu'on propose une solution, une mise en place d'une solution éducative pour le gamin et aussi pour la famille. Et souvent, dans le cadre du déferrement, parce que ça s'appelle un déferrement, notre boulot consiste à proposer une alternative à l'incarcération. Car l'incarcération doit être exceptionnelle, ça doit être un événement, ça ne doit pas être banalisé. Et ces propositions peuvent être multiples. Ça peut être une place dans un foyer. S'il n'est pas possible, éducativement parlant, que le mineur reste dans son milieu naturel, en famille. Ça peut être aussi la mise en place d'une mesure à la fois éducative et probatoire, qui peut être une liberté surveillée préjudicielle, qui peut être une mesure d'accompagnement de jour, qui peut être aussi un contrôle judiciaire, mais là on est vraiment du probatoire. Probatoire pur, c'est le juge qui en décide. Donc là, l'idée, c'est que à partir du moment où le gamin arrive, il y a un compte à rebours. Hein, il faut tout donner pour qu'on trouve un avenir à ce gamin-là et que cet avenir ne passe pas par l'incarcération. Hein, on est contraint par le rythme judiciaire, c'est-à-dire qu'un gamin, normalement, arrive le matin, la famille, normalement, arrive le matin, les mises en examen ont lieu l'après-midi et on a donc quelques heures, en tout cas, c'est quelques heures, pour trouver une solution. C'est ce qui est compliqué, c'est-à-dire que nous, on doit mettre en place quelque chose d'efficient dans l'urgence. Donc pour revenir sur la procédure, il y a la mise en examen. Le juge pour enfants peut décider que le gamin ne reparte avec sa famille ou soit placé. Donc après, il y aura des mesures de milieu ouvert systématiquement. Sur un déferrement, il y aura des mesures de milieu ouvert. Donc liberté surveillée, mesures d'activité de jour, il y en a d'autres. Hein, voilà. Soit le juge pour enfants décide qu'il demande son incarcération. Dans ces cas-là, il va devant le juge des libertés de la détention. Donc il retourne dans les geôles, il attend pendant des heures encore, parce que le juge des libertés de détention arrive plus tard. Le juge des libertés de détention lit notre rapport, reçoit le gamin, décide ou non de confirmer l'incarcération. Le gamin, là, on le rencontre dans un moment d'urgence totale. Il vient de faire 24 heures de garde à vue, voire 48 heures de garde à vue. Donc, c'est de la privation de liberté. Et quand on voit le gamin, il faut avoir une baguette magique, c'est-à-dire qu'il faut rendre éducatif un entretien qui, au départ, n'a aucune raison de l'être. C'est dur. C'est-à-dire qu'il faut arriver à se faire reconnaître comme un éducateur, presque instantanément, et puis aussi rester dans son champ, le champ éducatif. Donc on a un mineur qui comprend très rapidement qu'en face de lui, il a un éducateur, une éducatrice, et que l'idée, c'est de parler d'éducation, c'est parler de lui. C'est pas de parler que de l'acte. On n'est pas avocat, on n'est pas juge. Nous sommes éducatrice ou éducateur. On doit parler de lui, toujours pareil, de ses joies, de ses peines, et de ses peurs. Parce qu'à ce moment-là, on a un gamin qui, quoi qu'il en dise, même si des fois il peut faire le fier à bras, c'est normal, C'est l'adolescence qui fait ça. On a un gamin qui a peur en face de nous. C'est de lui permettre de retrouver sa place. De lui permettre de retrouver sa place d'un gamin de 14, 15, 16, 17 ans. D'un gamin. C'est lui permettre aussi de comprendre que oui, il va être mis en examen parce qu'il a commis un acte délinquant, mais en fait, derrière le délinquant, il y a un adolescent. C'est vrai, moi je me suis souvent posé la question hein, de savoir pourquoi ça marche. Ça pourrait ne pas marcher, mais ça marche toujours. Ça marche toujours, toujours, toujours. Même si des fois ça peut être un peu tendu au départ. Parce que c'est vrai, la garde à vue, le passage au commissariat, il y a un état de stress incroyable. Et puis ça revient à ça, c'est-à-dire que il peut oublier en chemin qu'il est lui-même un gamin, parce qu'on lui renvoie des choses fortes dans un commissariat, même s'il y a un traitement spécial pour les mineurs. Bon, ça peut aussi, le gamin, ça peut le conforter dans une image de délinquant que lui-même n'avait pas spécialement envisagée. Donc c'est sûr que si on arrive en lui expliquant, voilà, garçon ou jeune fille, tu es une délinquante ou un délinquant, bon, d'entrée c'est fini, parce qu'on lui met l'étiquette et lui-même il dit, bon, bah, d'accord, ok, ça va. Je suis un délinquant, pourquoi je te parlerai ? Et puis d'arriver à amener vers des paroles signifiantes, parce qu'on le sent. Donc on sent que ce qu'on est en train de se dire, c'est important. Et on s'aperçoit que des gamins qui des fois n'ont pas accès à une parole libre, de par leur cursus scolaire, parce qu'ils sont souvent en rupture, ou de par un milieu familial, ou qui est souvent délétère, là d'un coup, il y a des mots choisis. Et là d'un coup, il y a des silences. Et ça fait avancer. On prend le temps, et puis on prend le temps aussi de décrire de où on est, quoi. On se leurre pas, on n'explique pas que... On peut pas faire oublier les tonnes de béton qu'on a au-dessus de la tête. On peut pas lui faire oublier qu'il va passer devant un juge. Par contre, on peut bien lui faire comprendre que... Ouais, ok, t'es un mineur, t'as des difficultés, moi je peux entendre ça. Et puis je peux trouver une solution. Et puis je peux te tendre la main. Après, c'est à lui de voir hein, si... S'il a envie de la prendre la main. Ce qui est signifiant, c'est déjà comment le gamin se situe, comment il parle des autres. C'est important que le gamin il ait une prise de conscience de l'altérité. C'est très dur ça à l'adolescence. De se dire qu'en fait on n'est pas tout seul et que nos propres choix ont une influence sur les autres. Donc le gamin commence à parler de lui, c'est important. Quand il parle de lui, à un moment il va parler donc des autres, et les autres c'est de l'école, de où il en est à l'école, s'il prend du plaisir à l'école, s'il y va. Bien sûr, tout ça après on téléphone au collège ou au lycée pour savoir si justement son discours correspond. Parce qu'on a des gamins qui peuvent être très lisses, ou des gamins qui expliquent des choses, ou qui en font des caisses en disant qu'à l'école, ils cassent tout, et en fait, ça va. Et des gamins qui disent, moi, il n'y a pas de souci, j'y vais tous les jours. Bon, la fameuse question de... Moi, souvent, je demande, bon, ça va, oui, ok, tu vas à l'école, ça se passe bien, comment s'appelle ton prof principal, est-ce qu'il est sympa ? Bon, quand le gamin, il ne sait pas comment s'appelle son prof principal, et qu'il ne sait pas s'il est sympa, déjà, on sait que la scolarité, ça ne va pas. Il parle aussi de sa famille. Là, c'est pareil. On a un aller-retour entre ce que va dire la famille du gamin et ce que le gamin va dire de sa famille. Savoir si compte dans la famille. Quelle est sa position ? Est-ce qu'il est considéré comme un vilain petit canard ? Est-ce qu'il est considéré comme l'enfant roi ? Est-ce qu'il est considéré comme la dernière roue du carrosse ? Est-ce qu'il reste un peu chez lui ? Ou est-ce qu'il est tout le temps dans la rue ? Dans ces cas-là, on tire le fil. Pourquoi t'es tout le temps dans la rue ? Alors, pourquoi t'es toujours dans ta chambre à jouer à la PlayStation et qu'en fait, tes parents ne te voient pas ? Des fois, c'est juste un contexte d'adolescence. C'est des problématiques d'adolescence. Mais derrière, il y a aussi autre chose. Son rapport, donc, à la rue. Est-ce qu'il a des copains ? Est-ce qu'il a des copines ? Inversement, est-ce qu'elle, elle a des copains et des copines ? Est-ce qu'elle sort ? Est-ce qu'elle se sent bien dans son quartier, est-ce qu'elle a qu'une envie, c'est partir de là, est-ce qu'elle a qu'une envie, c'est trouver sa place là-dedans. Et toujours avec les parents, qui des fois sont rejetants, des fois ont des paroles très aimantes, mais qui disent eux-mêmes qu'ils sont démunis, des parents qui n'osent pas dire qu'ils n'y arrivent pas. Donc tout ça, c'est du concret. Et donc, en fait, on a le gamin, la famille et tout ce qu'il y a autour. Il faut que j'arrive à me faire une idée. Même si je suis dans l'urgence, il faut que je me fasse une idée pour pouvoir ensuite faire des propositions éducatives qui soient adaptées au gamin. Voilà. Ça, c'est vraiment du concret. Et ensuite, la procédure, hop, elle avance. Tenir les deux. Si on ne tient que le cadre, j'allais dire sociologique, on va dans le mur. Parce que du coup, on se retrouverait à prendre un papier avec des choses déjà normées. Si on fait ça, on s'aperçoit que tous les gamins sont les mêmes. Ben oui, parce qu'en fait, ils rentrent dans le cadre. Si on est simplement sur du factuel, oui, si on fait ça, si on fait juste ça, on pourrait peut-être faire un bon boulot de sociologue, et des sociologues s'en sont servis de ça. Mais ça n'apprend rien. Enfin si, ça apprend que oui, c'est pas un scoop. Les gamins que l'on voit sont des gamins en difficulté qui cumulent un milieu social délétère. C'est plus compliqué à Marseille de vivre dans certains quartiers, des quartiers nord, certains quartiers des centres-villes, que dans des quartiers qui sont plus favorisés. C'est plus difficile de vivre dans une famille économiquement précaire que dans une famille aisée. Mais là, quand on est sur des familles où déjà c'est compliqué de vivre au quotidien, de remplir son frigo et d'arriver à se lever le matin, que tout aille bien et finir le soir, quand le gamin il commence à glisser, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les ressources pour le prendre. Voilà. Je ne suis pas en train de dire que les familles en difficulté n'élèvent pas bien leurs gamins. L'énorme majorité des familles en difficulté n'ont pas de problème avec l'éducation des gamins, mais quand ça commence à être vraiment compliqué, elles sont démunies. Ça, c'est de la sociologie. Si on prend ça, si on tire les fils sans y réfléchir, bon, ben ouais, ok, on a un gamin dans un milieu défavorisé, avec une famille qui n'a pas beaucoup d'argent, une famille souvent monoparentale, et puis on continue comme ça. Et on n'apprend rien. En fait, on a l'impression de voir toujours les mêmes gamins. Et en fait, le gamin, il a sa propre dynamique. C'est de ça qu'il faut parler. Il faut mettre en coordination les deux, voilà. Avoir des choses qui font partie, j'allais dire, de la société, et puis des choses qui appartiennent aux gamins, on mixe ça et on se fait une idée éducative. Voilà. On peut avoir des gamins qui sont totalement éteints, qui sont dans une sorte de dépression larvée. On a des gamins qui sont dans une dynamique incroyable et qui sont sur un passage à l'acte qui s'inscrit dans une sorte d'agitation permanente. On a des gamins qui sont totalement dans la remise en question du cadre, que ce soit scolaire ou du cadre familial. On a des gamins qui sont... la problématique de l'altérité est centrale, hein, qui sont dans une sorte de toute-puissance, parce que les bornes n'ont pas été mises, j'allais dire, au bon moment ou maladroitement, et donc il y a cette idée de tout est possible, mais il se trompe de voie, quoi, et sa réflexion tape dans le mur, quoi, voilà. Et du coup, il se retrouve dans les geôles. Il faut arriver à sentir... qu'est-ce qu'on peut en faire, et pour savoir ce qu'on peut en faire, ce que lui-même peut faire de lui dans la société, dans les jours suivants, dans les mois suivants, les années suivantes, il faut savoir d'où il vient, quelle est sa blessure, quelle est sa fêlure, qu'est-ce qui fait que il se retrouve dans cet état où lui-même ne s'y retrouve pas, où lui-même est dans une sorte de souffrance qu'il des fois n'arrive même pas à verbaliser. Et là on s'aperçoit que oui, il s'est passé quelque chose, une difficulté, des fois des difficultés qui pourraient paraître presque anodines, mais c'est rare. Moi, je rencontre des gamins, pas plus tard qu'hier, hein, où il y a eu un gros bug, un décès, une séparation des parents très compliquée, des violences verbales, psychologiques ou même des fois physiques. une problématique qui des fois est une simple problématique de l'exil et donc de la construction de l'identité. Il y a quelque chose, quoi. Derrière, il y a quelque chose. Si on ne va pas le chercher, il n'y a rien. Voilà, si on ne va pas le chercher, il n'y a rien. On peut ne rien chercher, du coup, c'est lisse. Et là, d'un coup, l'étiquette du délinquant marche à tous les coups. Voilà. Mais si on fait son boulot, si on prend le temps de la réflexion, même dans l'urgence, on voit qu'il y a une rencontre qui est possible, voilà, même dans l'urgence. Par contre, il faut faire gaffe, l'idée, c'est pas de faire décompenser les gens. Voilà. Faut attendre que ça vienne. Faut pas aller le chercher maladroitement. C'est pour ça qu'on ne peut pas bosser avec une grille. On ne peut pas arriver au troisième item en disant « Bon, on va lui demander si sa mère est morte. » Non. Non. Ça vient. Puis si ça ne vient pas, des fois, c'est par le biais de la famille. Évidemment que la problématique du deuil, des fois, n'est pas évoquée directement avec le gamin. Il faut prendre le temps d'y revenir après. Il faut que ça vienne. Il y a des gamins qui le disent sans s'y attarder. Vont dire « Je suis né de père inconnu. » Et puis... Donc, on va voir la famille et puis on rencontre le père. Bon, pas de père inconnu. Mais ça, il m'a dit quelque chose. Il y a des gamins qui expliquent qu'ils ne connaissent pas leur mère. En fait, la maman, elle est là. Ou des gamins qui parlent de leur mère. Et puis, quand on arrive pour rencontrer la famille, la maman est décédée depuis plusieurs années. Bon. Et l'idée, c'est pas que tout le monde pleure. L'idée, c'est pas que tout le monde se morfonde. L'idée, c'est de se trouver une dynamique pour construire quelque chose. Si on prend le temps d'avoir de la peine, on prendra le temps d'avoir de la peine. Alors, c'est des minutes qui sont longues. Hein. Donc, on est dans l'urgence, mais les minutes sont longues. Mais c'est pas grave. Si on prend même le temps de rester silencieux pendant deux longues minutes autour du bureau, c'est pas grave. C'est bon. Mais on n'est pas là pour faire un psychodrame. Je pense qu'il est important pour quand on fait ce boulot, enfin mon boulot, c'est d'avoir en tête que la privation de liberté et l'enfermement ne peuvent pas être une solution. Ne peuvent pas être une solution. Il faut tout faire pour éviter la privation de liberté et l'enfermement. Parce qu'on a des gamins où en fait il n'y a que ça, quoi. Ils ont rien. Ils ont rien. C'est des gamins qui ont été abandonnés. Des fois par la société, des fois par la famille, mais ils ont été abandonnés. Je dis pas que ce sont des enfants de cœur, hein. Je dis pas qu'ils sont toujours sympas, hein. Je dis pas qu'ils commettent pas des délits. Mais en fait, la seule chose qui leur reste, c'est la liberté. Là aussi, quand on prend un peu de recul, tout le monde a de la sympathie pour Gavroche. La seule chose qui lui est restée à Gavroche, c'était sa liberté. C'est une évidence pour tout le monde. Et si on comprend pas ça... On passe à côté de tout, quoi. Même dans la réflexion, quand on rencontre les gamins. Nos gamins, en fait, ce qu'ils veulent, c'est être libres, maladroitement, en faisant tout et n'importe quoi, avec des fois une vision nihiliste de la société, où ils confondent liberté et puis faire n'importe quoi. Voilà. Piquer des trucs, casser des trucs, voilà, ce côté-là. Si on leur explique que dans leur parcours éducatif, que nous, on leur propose, on part du principe que la privation de liberté en CEF et l'enfermement en EPM, c'est juste une simple étape. C'est qu'on s'est planté le boulot, quoi. C'est pas une simple étape. Ça ne peut pas être une simple étape. Ça peut être quelquefois un événement. Parce que des fois, oui, on se bat pour éviter tout ça. Et on lui explique que là, il va falloir qu'il fasse gaffe. Et qu'on va essayer de trouver telle solution, etc. Et que, in fine, ils se retrouvent incarcérés. Bon. Parce que la société décide de l'incarcérer, de l'arrêter par l'incarcération. Bon. Là, ça ne me regarde pas, c'est pas ma décision. Moi, je suis éducateur, je fais tout pour l'éviter. c'est que quand le gamin il est incarcéré, c'est un échec. C'est un échec, ça arrive. Hein. Faut se battre. On est à contre-courant, on est à contre-courant. Il faut continuer à être à contre-courant. Il faut continuer à croire à ce qu'on fait sur l'accompagnement des gamins et pas se laisser emporter par un discours nauséabond sur la jeunesse en général et la jeunesse en difficulté en particulier. Nous, notre idée, c'est pas de mettre à part, de sortir les gamins délinquants de la vision des bonnes gens, c'est d'arriver à leur trouver un avenir dans la société. Parce qu'il serait faux de croire que ces gamins vivent hors de la société. Non. Ils sont dans la société. Et ils sont en pur produit dans notre société. Ce n'est pas des asociaux. C'est des purs produits de la société. Ils sont plus dans la société que nous-mêmes. Une fois qu'elle a mis un examen, pour moi, pour mon boulot, quoi, pour la suite de mon boulot, en fait, il y a trois possibilités. Voilà. Soit, après la mise en examen, il passe devant le JLD, il y a risque d'incarcération. Soit, le juge a demandé des mesures de milieu ouvert ou d'insertion. Le gamin, il repart avec sa famille avec une convocation, c'est-à-dire qu'il va être convoqué par le service. Soit le juge, il décide que le gamin soit placé. Parce que j'en ai fait la proposition. Ben là, le gamin, en amont, parce que j'ai anticipé le truc, je cherche une place en foyer. Place en foyer à Marseille, si il est important que le gamin reste à Marseille, parce que si on a un gamin, mettons, qui est scolarisé, qui est dans un lycée, en collège, et que ça fonctionne, si on va à Nice, il faut tout reprendre à zéro. Donc, c'est trouver une place à Marseille. J'appelle toutes les structures. Enfin, j'appelle, dans un premier temps, je me dis, je vais appeler les structures d'hébergement qui correspondent à 100% à la problématique du gamin. Des fois, ça coince. Parce que, elles ont pas de place. Parce qu'il faut savoir que, donc, la protection judiciaire de la jeunesse, pour avoir une idée, hein, à Marseille, il y a un foyer classique avec 12 gamins dedans et deux CEF, centres éducatifs fermés, qui, là, sont vraiment pour des mineurs, officiellement pour des mineurs multirécidivistes. Voilà. 12 à Aix, 12 à Martigues, et pour les Bouches-du-Rhône, on a fait le tour. Voilà. Et là, c'est même plus l'entonnoir judiciaire, c'est que concrètement, à la protection judiciaire de la jeunesse, on n'a pas les moyens de trouver des places d'hébergement véritablement adaptées à la problématique du gamin. Mais des fois, il se retrouve à Toulon. Donc après, on va voir ce qui se passe à Grasse. Après, on va voir ce qui se passe à Nice. Après, on va voir ce qui se passe à Avignon. Après, on va voir ce qui se passe à Valence. Après, on va voir ce qui se passe à Montpellier. Et on continue comme ça. Là, c'est catastrophique. L'état de l'hébergement à la protection de la jeunesse est totalement catastrophique. On est tous en difficulté à cause du manque de moyens. Et on bosse pas avec des petits pois. On bosse avec des gamins qui sont une matière inflammable. Et donc, du coup, des fois, moi, je suis un peu un cache-misère. Hein. C'est ça, l'idée. C'est-à-dire que on fait des propositions, on tente de les mettre en place. On les met en place avec les moyens du bord. Et on s'aperçoit que c'est pas suffisant. Là, c'est pas frustrant. C'est que je peux être, oui, le cache-misère... de la société pour dire on fait quelque chose. Des fois on fait des choses mais on peut pas aller au bout faute de moyens adaptés quoi. Après les éducatrices et les éducateurs sont pleins de ressources, on va chercher ailleurs, on essaie de trouver des partenariats, on va voir des associations mais ça devrait être en plus la cerise sur le gâteau quoi. Et là le gâteau il y a un souci.
lors de la mise en examen, si le placement donc est ordonné, moi je prends le gamin et on part et on va sur le lieu d'hébergement, qui peut être à Marseille ou ailleurs ou bien plus loin. Et donc concrètement, il se passe quelque chose aussi dans la voiture. Parce que je vois le gamin pas longtemps, mais quelque chose se passe quand même. J'arrive dans un foyer avec le gamin. Donc on part dans la bagnole, déjà expliquer un peu le truc, parce que le gamin est... En gros, en 24 heures, voire 48 heures, il passe de chez lui à, en gros, à faire les 400 coups, voilà. En foyer. Bon, il faut un peu prendre le temps de la discussion dans la bagnole. Et j'explique aux parents, il sera dans un foyer, c'est un hébergement, il y a des éducateurs, voici le numéro pour appeler. Il va manger à sa faim, parce que les parents, c'est le premier truc qu'ils demandent. Donc vous faites un sac, comme s'il partait dans un lieu d'hébergement. Enfin, il va partir dans un lieu d'hébergement. Donc, vous mettez des trucs pour tous les jours, pour qu'il puisse aller à l'école s'il va à l'école, pour dormir le soir, son pyjama, ses brosses à dents, son machin, tout le truc, quoi, voilà. Donc, les parents, là-dessus, déjà, ça les rassure, parce que ça humanise. Ils ont une représentation. Ils disent, bon, en gros, aujourd'hui, vous faites un sac de colo. Même si je leur expliquais bien que c'est pas une colo. Mais je vais expliquer le truc, quoi. Donc le gamin, il a son sac, j'ai le sac avec moi. Donc c'est le premier truc que le gamin demande, quoi. Mes fringues, quoi. Donc on parle des fringues, des machins, etc. Voilà. L'argent de poche, enfin, des trucs de gamin. Est-ce qu'il y a un goûter Enfin, des trucs de gamin. T'as un ado dans la bagnole que t'embarques sous le bras que tu connaissais pas 12 heures avant et avec qui tu te retrouves à parler sur l'autoroute direction Nice avec un sac de fringues. Enfin, voilà. C'est surréaliste. Il faut faire que ça devienne réaliste, quoi. Voilà. Donc, t'arrives dans le foyer. Dans le foyer, bon, si t'es un vieux de la vieille, tu connais un peu les éducs qui sont sur place, ceux que t'as vus au téléphone. Et t'as un éduc, une éduc qui explique au gamin, ben voilà, tu vas être là, voilà ta chambre, machin, moi je reste un peu, on discute, pour que le gamin il soit un peu à l'aise, tout ça. Et là, je lui dis, ben moi je m'en vais. Hein? On se verra plus. Voilà, si on se voit, toujours pareil. C'est dans la rue, quoi, je serais content de te voir. Mais là, on se verra plus. Bon, ça fait toujours son effet. Hein? Et un peu, tu pars en bagnole. Et tu rentres chez toi. Et là, je réveille, fini. Hein? Et le lendemain, t'en as un autre. Il m'est paru évident de rentrer à la protection judiciaire de la jeunesse, parce que je voulais voir un peu ce que ça donnait d'être avec des gamins dans une grande souffrance et voir ce qu'on pouvait... On pense vite dans une société et cette société, on la connaît pas, quoi. Et donc on voit que oui, il est important d'essayer, autant faire se peut, de rétablir une certaine équité entre les gens. Et la protection judiciaire à la jeunesse m'intéressait par rapport à son cadre, parce que c'est la fonction publique, et je me disais que d'être au plus près du côté régalien de l'État permettrait d'être, j'allais dire, plus efficace auprès de la jeunesse, parce que même si j'avais fait un crochet par les adultes, ce qui m'intéressait, c'était la jeunesse, la dynamique qu'il y a dans cette jeunesse, le souffle qu'on peut trouver. Autant médiatiquement, il est relayé des images fortes, sur ce qu'on appelle la jeunesse en difficulté, et déjà c'est une image bien précise, c'est soit l'image du sauvageon, soit l'image du jeune à casquette. On va pas toucher les joies, les peines de ces gamins là et moi dans mon boulot je touche ça, les joies, les peines, et c'est important de les intégrer pour après en faire quelque chose avec des outils éducatifs. Aujourd'hui on a une société qui ne connaît pas sa jeunesse. Quand elle en parle, c'est pour la stigmatiser, pour lui reprocher en fait d'être jeune. Voilà, c'est ça. On est passé des classes laborieuses dangereuses à la jeunesse dangereuse, quoi. Bon, voilà. C'est indispensable qu'on accompagne la jeunesse. Autrement, on n'a qu'à tout laisser tomber. Hein.
La parole au travail, une série documentaire de Christophe Massot.